qui nous a parlé d'élever le niveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire élever le niveau? On a aussi parlé, Josine avait eu une parole qui nous a parlé de la sanctification. Et tout ça, c'est ce qu'on entend pendant nos cultes, c'est ce qui nous parle. Et très vite, notre semaine, vous voyez, notre réalité est que bah, ça revient pas tout de suite, qu'on a du mal à se souvenir, que finalement, nos semaines nous bouffent. On entend tellement de choses, on voit tellement de choses qu'on oublie ce qu'on entend le dimanche matin. Et la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce qu'on entend le dimanche matin, ce qu'on notre vie personnelle avec Christ, mais vous voyez que la réalité, quand je pose des questions, il faut réfléchir. Alors si je pose la question, mais quelle prédication a transformé ta vie? Ben, si déjà tu as du mal à te souvenir, vraiment, qu'est-ce que tu as pu mettre en pratique? Et je suis comme vous, hein, attention, hein. Ça veut dire qu'on a un effort à faire là-dessus. Et ce matin, on va aller plus loin par rapport à tout ce qu'on a entendu. Voilà, Jésus est la solution. Il va dans les situations où c'est les ténèbres. On l'a chanté ce matin à Bethesda, où là, il y a la mort, il y a les maladies, il y a la désolation. Et puis Jésus arrive. Et le symbole de Bethesda, c'est quoi? C'est qu'ils sont là, ils sont en train d'attendre qu'un ange frotte l'eau. On ne sait même pas si c'est un ange, on ne sait pas si ça boue, mais qu'il y a un rituel. Tous les malades sont à Bethesda. Ils sont là, ils attendent. Et Jésus arrive sans annoncer qu'il vient. Et puis il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Et en disant à cet homme, veux-tu être guéri? Cet homme dit oui, et puis il est guéri. Et alors, on voit que c'est le symbole où Jésus arrive là où il y a des rites, là où il y a des aspects religieux de notre vie, et il vient bousculer les habitudes. Et il est venu bousculer l'habitude de cet homme d'être là tous les jours. Il manquait aucune journée, il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas se jeter lui-même. Et puis Jésus est venu bousculer tout ça. On a eu toutes ces prédications, on a parlé de sanctification, on a parlé de toutes sortes de choses. Et la semaine passée, eh bien, on a entendu, eh bien, il faut élever le niveau. Et je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire élever le niveau? Est-ce que ma vie, c'est pas assez suffisant pour Dieu? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre de plus dans ma vie concrètement pour élever mon niveau? Parce que ça veut dire quoi concrètement élever le niveau? C'est une belle parole. Messieurs, mesdames, faut élever le niveau. Ouais, mais élever le niveau de quoi? Je dois lire plus ma Bible, je dois prier plus, je dois faire plus. Qu'est-ce que ça veut dire élever le niveau? Alors mon thème ce matin, c'est du réel au surnaturel. Ça va? Alors il faut comprendre que, eh bien, dans la vie, il y a des choses beaucoup plus faciles à comprendre qu'à mettre en pratique. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et la foi en est une. La foi, c'est facile à comprendre. L'évangile est simple, il n'y a pas plus simple. Jésus est mort. Il a donné sa vie, on croit en lui, c'est une chose folle, un homme né d'une vierge, une folie. Et puis cet homme vient et donne sa vie, ça veut dire quoi? Il a donné sa vie pour moi, pour me libérer de mes péchés, afin que moi, en croyant en Jésus-Christ, je puisse avoir accès à la vie éternelle. L'évangile est simple. À le comprendre intellectuellement, vous pouvez aller parler à quelqu'un dans la rue, il va le comprendre intellectuellement. Mais la question est maintenant, comment il va vivre ça, comment il va recevoir ça, et comment le mettre en pratique? Je suis chrétien. Comment je mets en pratique le fait d'être chrétien? Est-ce que vous me suivez? Alors Romains 10, 17, on l'a dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors on a tous entendu parler de Christ à un moment donné, c'est pour ça qu'on est là. Et si on est là, c'est parce que quelque part, eh ben, soit on est intrigué, soit on est un chrétien de longue date, soit la foi nous a été communiquée par nos parents, peu importe le contexte, mais voilà, il y a quelque chose. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et on a entendu à Bethesda, et papa disait que c'est le fait qu'il a suscité sa foi en lui disant, veux-tu être guéri? Jésus est venu voir ces dames et il a suscité sa foi pour que cet homme puisse saisir son miracle. Et moi, j'ai entendu parler de Jésus dans ma famille. Mes parents, ils me parlaient de Jésus. Fallait aller au culte le dimanche, la réunion de prière. Est-ce que vous avez besoin de Dieu? Et moi, dans ma tête, je disais, ça chauffait. J'ai besoin, oui, mais concrètement, comment? Bon, bah, je vais aller pour faire plaisir à papa. Et puis, vous voyez, et puis, on a des chemins différents. Peut-être que tu as entendu parler de Dieu par Noémie, hein, Julien? T'étais là, et puis t'essayais de la draguer, et puis elle vient, elle te parle de Jésus. C'est ce que Claudio appelle la drague de l'évangile. Alors vous voyez, c'est tout un contexte. Donc peu importe la situation, eh bien, on a entendu parler de Dieu. Et cette foi a été suscitée dans notre cœur pour qu'on puisse croire. Oh, c'est puissant chez les enfants, hein. qu'on puisse croire à chaque fois que je vais faire ça. Alors Hébreux 11.1, que nous dit Hébreux 11.1 ? Vous le connaissez par cœur. Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fred a prêché sur ce verset-là il y a 3 semaines et il a parlé de l'espérance. Je vais vous parler moi de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut tout dire et rien en même temps. Parce que tu peux le comprendre et pourtant ne pas le vivre. Tu peux le vivre et le comprendre, mais c'est bien plus compliqué. Alors la foi est une ferme assurance. Simplement la ferme assurance que Christ est mort pour moi. Est-ce que ce matin, tu as la ferme assurance que Christ est mort pour toi ? Pose-toi la question. En vieux chrétien, tout ce que tu veux, peut-être que t'as eu cette assurance à un moment donné, mais là, maintenant, alors que je te parle, est-ce que tu as l'assurance que Christ est mort pour toi ? Là, tout de suite. Ouais ? Alléluia, il y a des gens puissants ici. Ensuite, qu'il est ressuscité et qu'il te prépare où, quoi ça ? Une place dans la maison du Père. C'est quand même fou, moi j'ai du mal à imaginer. Il me prépare une place dans la maison du Père. Ça veut dire que la foi, c'est croire en un mec que j'ai jamais vu et de croire que ce gars-là, il va me préparer une place chez un mec encore plus grand que j'ai vraiment jamais vu. C'est des fous ces chrétiens. Hein, c'est quand même dingue. Hein. Alors, cette foi, c'est ça. Alors, qui croit en ça ? En cette folie ? Qui croit en cette folie ? Ah, il y a des fous de Dieu. Alors Joe, t'es mon cobaye. On va passer de la théorie à la pratique. Viens ici, Joe. Joe. Ça va, Joe ? Alors, on va lui faire une petite pratique qu'on a faite à la formation de pasteur. Donc, tu vas voir, on va voir si tu as confiance en moi, si voilà, ça va entre nous, il y a une bonne relation, si vraiment tu me fais vraiment bien confiance. Alors, tu fermes tes yeux, ça va ? Tu tends ta main vers l'avant, vas-y, tends ta main, ta belle main, voilà. Je vais juste tenir ta pomme, d'accord ? Et moi, je vais me promener, et toi, en fermant les yeux, tu as interdiction d'ouvrir les yeux, tu vas me suivre, d'accord ? Ça va ? Tu tiens ma pomme ? Tu sens que ça avance ? Tu n'as pas le droit de la tenir, hein. Juste une touche. Jusque-là, ça va, vous voyez, il me fait confiance, il ferme les yeux. Regardez bien ce qui se passe, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est Joe. Et là, d'un coup, vous voyez ? Ouais, j'accélère, hein, mais lui, il retient. J'accélère, mais... Joe. Hein, attention. Il est réticent, vous voyez ça ou pas ? Hop, allez, on continue. Ah, vous voyez, donc là, vous voyez, ça, c'est sa limite. Merci, Joe, c'était merveilleux. T'inquiète pas, j'ai pas réussi mieux que toi la première fois. Alors, vous voyez, c'était une question de confiance. Je l'ai amené à avancer tout doucement, puis à courir, puis à faire marche arrière. Et au plus j'accélérais, t'as senti, au plus c'était difficile de te laisser conduire. C'est juste, t'avais perdu la notion de où tu étais, tu savais plus quoi, et là, c'était difficile pour toi. Est-ce que c'est juste, Joe ? Et puis, on a vu la réticence qui a commencé à y avoir, là. Et puis, à un moment donné, il s'est bloqué. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous dit quoi ? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que c'est juste ? On marche par la foi et non par la vue. Dieu me connaît très bien. On a passé 18 mois ensemble, on a fait les fondamentaux ensemble. Il me connaît très très bien. Et pourtant, alors que je le guidais, il avait du mal à me suivre. Alors imaginez-nous notre vie, suivre Christ qu'on n'a pas vu. Et alors on est complètement aveugle. Et là, il ne nous tient pas la main. Moi, je ne le sens pas. Hein. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On a vu la limite de Dieu. C'est que Dieu, à un moment donné, il y a un certain, il y a une crainte, il y a une peur, il y a une incertitude, donc il bloque. Et les choses dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Gardez bien cette image en tête. Et on va lire une autre histoire. Matthieu 14, versets 23 à 33. On va lire beaucoup ce matin, donc accrochez-vous. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette histoire. Elle est merveilleuse. Quand il l'eut envoyé, alors je vous donne le contexte. C'est la fameuse histoire où Jésus prend les pains, les poissons, il les multiplie. Juste avant, il y a eu la mort de Jean-Baptiste. Jésus dit, écoutez, moi, il faut que je m'isole, je m'en vais. Et puis la foule apprend que Jésus part et la foule veut voir Jésus. Et puis il contourne le lac, il lui sort de la barque, il voit la foule. Il dit qu'il est ému de compassion, il commence à parler à la foule, il fait un miracle. Et il dit aux disciples, écoutez, moi, je vais renvoyer la foule, montez dans la barque, partez, et puis moi, je vais vous rejoindre. D'accord ? C'est ça le contexte. Donc quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier Jésus, à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Imaginez la situation. Ils sont là, ils sont sur la mer, et un type débarque. À travers le vent, les vagues. Je ne sais pas s'il fendait les vagues ou s'il passe au-dessus. J'en sais rien. C'est toujours la question que je me suis posée. Techniquement, hein, moi je suis concret. Il faisait ça ou... Est-ce qu'il était mouillé? Je ne sais pas. Et puis là, Jésus arrive. Et eux, mais c'est un fantôme! Imaginez la situation, Mélodie. Tu me suis? C'est quand même fou. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Point d'exclamation, donc il l'a dit un peu comme ça. Hein. Peut-être pas à ma façon, mais... Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Oh là 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 là, elle est impressionnante cette histoire. Jésus arrive, ils ont peur. Vous voyez la crainte, ils sont... C'est pas l'habitude qu'un gars arrive sur la mer, tu comprends? C'est pas habituel. Je me tourne et là, on sort des habitudes. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît, Jésus les rassure. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne avec toi. Pierre passe-le et il commence à marcher. Alors moi, si j'avais vécu ça, je me dirais, quelle foi? Waouh! Je suis en feu. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Moi, j'aimerais bien avoir le peu de foi de Pierre. Hein. Entre vous et moi, je n'ai pas encore marché sur l'eau. Homme de peu de foi. Impressionnant. Homme de peu de foi. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. J'aimerais vous attirer votre attention en Marc 6, verset 48. La même histoire est racontée. Dans cette même histoire, il y a plus de détails. Et c'est ça qui nous intéresse. Il vit qu'il y avait beaucoup de... Il vit, donc c'est Jésus, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Il est sur sa montagne. Donc déjà, imaginez, on nous dit qu'ils sont déjà au milieu de la mer. Jésus est sur sa montagne. C'est une atmosphère de tempête, de vent. Puis lui est là et il vit qu'ils avaient beaucoup de mal à ramer. Est-ce qu'il les a vus de ses yeux? En tout cas, il savait qu'ils avaient du mal à ramer. Jésus savait dans quelle situation il les avait envoyés. Il savait clairement que ça allait être dur pour eux. Et il leur dit, allez. Et là, ils commencent à galérer. On parle de disciples, c'était des professionnels de la mer quand même. Ils maîtrisaient les mecs. C'était pas un temps par lequel ils sortaient habituellement. Mais là, sur l'ordre de Jésus, ils sortent. Et puis, ils se retrouvent dans une situation critique. Car le vent leur était contraire. Les circonstances, les situations étaient contre eux. Ils obéissent à Jésus, ils vont dans la direction indiquée et là, tout est contre eux. C'est difficile, le vent souffle et là, ils ont une belle chevelure comme moi, vous voyez. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Ça, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Dans notre copain Matthieu, il n'a pas dit ça, lui. Il voulait les dépasser. Alors Jésus les envoie dans la galère. Et puis il se dit, on va se marrer maintenant. Moi, je vais opérer dans le surnaturel, je marche sur les eaux et je vais les dépasser. Je vais passer à côté d'eux. Imaginez la situation. T'es en train de ramer, c'est dur. Oh, Jésus, tu comprends, c'est dur. J'éduque ma famille, je travaille, je vais à l'église le dimanche, je supporte mes collègues. Et puis c'est dur, Jésus. Il y a un vent pas possible en ce moment. Les perturbations. Mais toi, t'es là et que t'étais sur ta montagne. Mais opère quelque chose maintenant. Et puis Jésus qui passe comme ça. Salut. Salut les gars, comment ça va? Vous imaginez la situation? T'es dans la galère et Jésus passe à côté de toi, il veut te dépasser. Mais il fallait compter sur la foi de Pierre. Pierre, il voit Jésus et il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne avec toi. Parce que Jésus, lui, il allait passer, hein. Jésus ordonne que je viens et lui dit, viens. Et là, la foi de Pierre se met en action et dit, j'y vais. Imaginez, moi, je commence à marcher là. Et il commence à marcher, il commence à marcher. Là, il est centré sur Jésus. D'un coup, le vent souffle. Et là, la peur et la crainte l'envahissent. Et là, il s'enfonce. Et Jésus le reprend et lui dit, homme de peu de foi. Ses disciples sont allés à l'école de la foi pendant 3 ans. Et ça, c'est une de mes histoires préférées, parce que là, on voit vraiment le côté comique de Jésus. Hein, et qui leur dit, attendez les gars, pourquoi vous doutez là? Et ils rentrent dans la barque et tout se calme. Nous, on opère dans les choses naturelles. Notre réalité, notre vie, notre famille, notre travail, c'est des choses très concrètes, réelles. C'est ce qu'on vit tous les jours. Cette vie-là, on la vit au travers de notre corps et de notre âme, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, notre détermination, notre raison. Mais Jésus, lui, arrive et il veut nous faire sortir de ça et nous amener dans le surnaturel. On a parlé de ce royaume de Dieu qui descend sur terre. Mais le royaume de Dieu, il ne descend pas que dans nos sentiments et dans ce qu'on ressent quand on est à l'église. Mais il veut descendre dans notre réalité. Il veut vraiment descendre dans tes galères, dans tes problèmes, là où le vent est contraire. Le problème, c'est que des fois, il y a tellement de tumulte que Jésus est à côté de ta barque. Lui, il est dans la même réalité que toi, mais le problème, c'est que lui, il opère dans le surnaturel. Il est au même endroit que toi, au même moment, mais il ne vit pas les choses comme toi et moi. Il n'est pas caractériel, vous voyez, il n'est pas frustré, il n'est pas susceptible. Ah, tous les petits défauts qu'on a, hein. Ça, il ne le vit pas, lui. Il n'est pas braqué contre quelqu'un. Il est là et puis dit « Alexis, viens. Alexis. » Et puis moi, je suis là, galéré, déterminé. Et je ne regarde pas parce que je suis trop concentré sur comment naviguer. Et parfois, ça peut durer comme ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines. 6 mois dans ta réalité, où quelque part tu te prives de la grâce de Dieu, alors que Dieu est tout puissant. Alors on aime bien chanter, hein. On chante « Jésus, tu es puissant, alléluia, glorieux, ça chante en langue, papa, papa, on a des grandes paroles. » Mais quand le dur est là, c'est plus difficile, il n'y a pas le groupe de louanges pour nous encourager là. Imaginez, vous êtes là dans une difficulté et d'un coup, vous avez Sandy qui arrive. Hey ce serait bien, moi, j'aimerais bien. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est que dans la difficulté, Sandy, elle est pas là, elle est au boulot. Elle bosse. Alors, c'est là où on doit crier à Jésus. Le problème, c'est que c'est facile à comprendre. On le comprend tous, je vous apprends rien, là. Mais à vivre, c'est plus compliqué, hein. Moi, quand ma femme, elle me serre la vis un peu trop, Jésus, il est pas là, hein. Le caractère, il est là. Vous comprenez? Alors, comment élever le niveau, finalement? Homme de peu de foi. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Homme de peu de foi. J'ai une bonne nouvelle. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et là, elle se transportait, rien ne vous serait impossible. Ça veut dire que pour Jésus, Jésus, il cherche pas la grande foi. Il cherche pas les grandes choses. Il cherche juste un petit peu de foi. Juste un tout petit peu. Là où tu es capable de croire juste même une demi-seconde en l'impossible. Eh ben, lui, il veut se manifester à ce moment-là. Il cherche ce petit feu pour déplacer une montagne. Vous me suivez? Jésus se nourrit de notre foi. Là où il y a la foi, il y a le miraculeux. Là où il y a la foi, il y a les œuvres de Dieu. Là où il y a la foi, il y a la présence de Dieu. Pas juste des théologies, pas juste une éthique de vie. J'éduquerai mes enfants comme ça. Non. Là où il y a la présence de Dieu. Qui change ma vie, où je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes problèmes, et puis je dis, Jésus, tu vois, dans ma barque, il y a un peu trop de vent en ce moment. J'ai besoin de toi. Moi, souvent, quand j'ai une semaine où je ne vis pas grand-chose avec le Seigneur, je me frustre et je me fais violence, et je dis, Seigneur, ça ne va pas, je suis endormi. Je suis souvent endormi, seul problème. Et je dis, Seigneur, je suis endormi, réveille-moi. Mets-moi un coup, là. Parce que j'ai beau prier en langue, faire tout ce que je veux, ça vient pas. Parce que c'est là où c'est la question de ta volonté. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux ma présence? Est-ce que tu désires mon intimité? Parce que si on entretient notre relation et que cette parole que tu entends le dimanche, que tu lis la semaine, que tu étudies, que tu approfondis, elle va rentrer en toi. Et alors, au travers de cette relation, notre intimité va grandir. Et quand notre intimité va grandir, eh bien, il y a une communion qui va être entre toi et moi. Et dans ta réalité où c'est difficile, où dans ton caractère qui revient, eh ben moi, je vais venir dans cette communion et je vais te dire, Alex, arrête. Arrête tout de suite. Et là, tu commences à entendre l'Esprit te parler, l'Esprit de Christ qui vient te convaincre de tes faiblesses, de ton péché et de reconnaître que tu as besoin de Christ. Et là, tu commences à abandonner tes petites rames, tu regardes les dauphins passer et tu sautes avec eux. Ça va? Ça va, Jonathan? On y va, hein? Donc, il y a une question de volonté et de détermination. Si tu vis ta vie chrétienne avec cette foi du salut qui est exceptionnelle, Seigneur, je vis en toi, je crois en toi, tu m'as sauvé, tu m'as libéré, tu me prépares une maison dans la demeure de ton Père, c'est très bien, c'est excellent. Mais là, on a besoin de plus de foi, on a besoin de ce don de foi. Ce don qui fait que dans certaines situations, bah oui, la lecture de la parole entretient ta vie spirituelle, mais là, tu as une réalité concrète dans ta vie, tu supportes plus ta femme, et bah il faut que tu aies plus de foi. Parce que c'est toi qui as besoin d'être transformé. Bon, pape, tu t'occupes de ta fille? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a rarement un problème avec Dieu. Le problème, c'est toujours nous. C'est jamais Dieu. Lui, il est fidèle, il est bon, voilà, il est merveilleux. Il est exceptionnel. Il nous attend. Il est à côté de nous, tu te rends compte quand même. Il vient dans le lieu de la désolation, là, à Bethesda, il vient te chercher toi parce qu'il sait que tu en as besoin. Il vient dans ta barque, là, où tu es avec toute ta famille et tu rames, et il dit... S'il te plaît, regarde-moi parce que j'ai une solution pour toi. Sors des choses charnelles, viens dans le spirituel avec moi, viens dans le surnaturel, viens vivre les choses exceptionnelles. Ça va? Le problème, c'est que souvent, en tant que chrétien, on s'attend à ce qu'on est avec Jésus et puis tout est facile et ça coule. Et puis nous, on est dans un temps où on est très fainéant. Hein. J'ai ma chère nièce qui m'a dit, c'est pas intéressant. Je dis pas qu'elle est fainéante. Hein. Je t'avais dit que je te ferais une spéciale dédicace. T'es là ce matin, c'est pour toi. Mais parfois, c'est pas intéressant de suivre Jésus. Parce que ça coûte. Parce que c'est plus dur. Parce que c'est pas le plaisir. Parce que c'est pas facile. Et ça me demande de faire un choix. Et finalement, je vois pas le fruit tout de suite. Ça me coûte d'abord et je vois le fruit après. Du coup, c'est plus facile de rentrer à la maison, de se mettre devant la télé. Là, c'est le plaisir instantané. Vous voyez, c'est instantané, hein. J'avais besoin de me détendre. Je me mets devant la télé. C'est facile. Et avec Jésus, c'est pas comme ça. Ça va à l'encontre de notre génération qui veut un peu tout rapidement. Alors on va lire ce verset qui dit, Matthieu 11, verset 28 à 30. Un verset qu'on aime bien aussi utiliser est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça, on aime bien. Ah, venez à moi, je vais vous donner du repos. Mais là, d'un coup, ça se corse. Prenez mon joug sur vous. Jésus, sérieux. Je galère, je suis dans la barque, là. C'est déjà difficile. Et tu me demandes de prendre un truc en plus, là. J'arrive pas. Quel joug tu veux que je prenne? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et en plus, tu vas diriger ma vie. Moi, j'étais tranquille. Je faisais ce que je voulais. Je dois prendre tes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je suis dans une situation difficile. Est-ce que le conseil de Jésus, c'est de me dire, écoute, Alex, t'es dans une situation difficile, ça va pas. Eh ben, je vais te demander de prendre un fardeau supplémentaire. Mais sache que celui-ci il est doux et léger. Ça veut dire que finalement, il y a du repos pour les âmes stressées, pour les âmes déprimées, pour les âmes dans le désespoir, fatiguées, éreintées. Il y a du repos en Jésus. Mais il faut avoir cette foi comme Pierre. Et là, on se retrouve dans la situation, la même situation que Pierre. Seigneur, je galère, c'est dur. Mais maintenant, je veux vivre autre chose. C'est comme si vous étiez, il y a un T comme ça en fait. Hein. C'est un T comme l'allée, ici. Et vous êtes là. Et vous avez un choix. Vous arrivez ici, là où il y a ma mère. Et vous avez le choix. Seigneur, ça me coûte de te suivre. Et là, c'est plus facile. Le problème, c'est que l'homme, il a du mal à vivre par la foi à ce qu'il ne connaît pas. Il préfère souvent choisir la galère qu'il connaît plutôt que le bonheur qu'il ne connaît pas. Alors il dit, en fait, moi, j'ai appris à gérer mes situations difficiles et je préfère continuer comme ça. Ma susceptibilité, finalement, je l'aime bien. Et là, Jésus nous révèle nos petits péchés mignons, hein. Les petits trucs qu'on n'a pas envie de lâcher. Et puis là, d'un coup, c'est « Écoute, j'ai une promesse pour toi, c'est la paix. Ça va te coûter un petit peu, tu sais, parce que finalement, je vais changer ton cœur. Ça va te coûter un petit peu, mais là, il faut que tu me crois sur parole. Que tu fermes tes yeux et que tu fasses comme Dieu. Laisse-moi te guider. » Et ça, c'est bien plus compliqué à faire qu'à comprendre. On comprend tous. Et chaque semaine, on se retrouve au thé. Qu'est-ce que je fais? Je choisis là ou je choisis là? Face à ma dépression, qu'est-ce que je fais? Je choisis de la gérer ou Jésus, je ne sais pas où je vais, je te suis. Face à ma maladie, je continue de la gérer ou je viens à toi, je me laisse guider. Parce que notre foi, elle ne doit pas être basée sur les circonstances, mais elle doit être basée sur la parole de Dieu. Peu importe les circonstances. On parle de déplacer les montagnes. Mais finalement, moi, j'ai grâce à Christophe qui m'a initié à l'escalade. Hein, Christophe, c'était bien, hein, l'escalade. Bon, avec Paul, hein. Paul, qu'est-ce que tu en penses? On se retrouve face à nos limites. Est-ce que là, cette voie-là, je peux la passer? Et Jésus, il t'amène dans tes limites. Il te dit maintenant, emprunte ce chemin. Parce que tu vas voir tes limites humaines. Une fois que tu vas les reconnaître, tu vas me laisser vraiment la place. Mais ça, c'est ton choix. Et là, on arrive sur cette voie. Puis j'ai dit à mon petit Alexis Bis, je suis le 1 tel 2, hein, d'accord? C'est comme ça entre nous. Alors, je dis à Alexis, mais attends, Alexis, t'as déjà fait cette voie en jaune? Jaune, c'est plus facile. Et puis bleu, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je dis, c'est ça, hein, bleu, jaune. Enfin, les couleurs, c'est pas vraiment ça, mais, d'accord? Et puis je dis à Alexis, écoute, essaye la bleue. Ouais, mais tu comprends, ça tend un petit peu. Et d'un coup, il dit, bon allez, j'y vais. Et là, il y va. Il dit, waouh, j'ai dépassé mes limites. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Il va te mettre dans des situations où il va te dire, vas-y, j'arrive, j'arrive. Et il te regarde au loin. Ah, il galère bien là. Quand est-ce qu'il va m'appeler? Ah, son orgueil est touché. Continue mon gars comme ça, vas-y. Et puis d'un coup, il dit, bon, il est bon, hein, le Seigneur. Il dit, je ne vais pas le laisser trop dans cette situation, j'arrive. Et lui, il arrive dans le surnaturel. Imaginez ça. Il arrive avec puissance, avec autorité. Même la nature, lui, n'a aucune puissance sur lui. Et il traverse tout. Et il dit, Julien, faut que ça bouge maintenant. Faut que tu élèves le niveau. Élève le niveau, sorte cette barque. Et ben, c'est ce que ça veut dire, élever le niveau. Personnellement, dans notre vie, il faut qu'on commence à faire la guerre là, à toutes ces situations qui nous entourent, parce que Jésus est puissant. Et en tant qu'Église, il y a encore une étape en plus, c'est qu'on est des guerriers. Et lorsqu'on est ensemble, il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Vous me demanderez une chose en mon nom, je l'accomplirai. Je ferai des miracles parmi vous. Vous irez de gloire en gloire. Et j'aimerais te poser cette question, c'est quelle est la dernière gloire que tu as vécue? Pose-toi vraiment cette question. Quelle est la dernière gloire que tu as vécue dans ta vie? Moi, si je réfléchis, je ne vous parle pas de reconnaître les bénédictions de Dieu dans votre vie, la grâce de Dieu, c'est bien. Non, je vous demande la dernière gloire de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie concrètement. Quand le surnaturel est descendu dans ton réel. Et là où tu as cru voir un fantôme et tu as eu peur, et Jésus t'a dit « Rassure-toi, c'est moi ». La dernière fois qu'il s'est passé ça dans ta vie, où les signes et les prodiges se sont manifestés. Ça va, vous l'avez ? Et là, si ça fait une semaine, tu te dis « Mince, pendant une semaine, je n'ai pas élevé le niveau ». Si ça fait un mois, tu te dis « Waouh ! Je pense que j'ai commencé à me retrouver à Bethesda, là. Les habitudes m'ont enraciné, m'ont bloqué là. Et là, tu dis, Seigneur, moi, je veux voir ta gloire. Moi, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance dans ma vie. Peut-être que tu es triste parce que tu sais que tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Mais c'est là où la grâce, elle va opérer. Tu dis, Jésus, voilà, je reviens à toi, je m'attends à toi, je suis ôté et je décide de te suivre aveuglément et je vais voir ta gloire. Parce que ça, c'est une promesse. Toutes les fois où tu as pris le chemin intellectuel, hein, chrétien intellectuel, là, c'est tout dans la tête. Là, tu dis, Seigneur, maintenant, je veux passer de la tête à vivre les choses concrètement. Il faut que ça bouge dans le réel. Si ton réel ne bouge pas, par la puissance surnaturelle de Dieu, c'est que ta foi, il y a un problème. Alors, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as juste besoin d'avoir ce cœur qui dit, « Ok, Jésus, je vois que c'est toi, mais je veux venir avec toi. » Et au pire, Jésus va juste te dire, « Homme de peu de foi. » Tu auras déjà vécu quelque chose d'exceptionnel. Alors, soyons clairs, je ne vous parle pas de vivre des sensations, de vivre... Je vous parle de ce que Dieu nous promet en tant qu'enfants de Dieu. La puissance, vivre dans l'autorité. On ne peut pas tout le temps déclarer plein de choses et pas le vivre concrètement. Sinon, c'est des paroles en l'air. On ne rigole pas avec Dieu. Si je dis que Jésus est puissant dans ma vie, Jésus est puissant dans ma vie. Et s'il n'est pas puissant dans ma vie une semaine, ben je me remets en question. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce qu'on a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Alors pourquoi on va tout le temps la rechercher? Qui a donné sa vie à Jésus? Ben, on va y aller à fond. Hein? On y va à fond ou pas? Amen. Alors on va renoncer, quand on sera resté, on va renoncer à quoi? Au péché qui nous enlise. On va renoncer à tous cette facilité qui nous endort dans nos habitudes. Tu vas renoncer au fait que tu es le centre de ta chrétienté, où tes problèmes, ta vie, c'est juste le centre. C'est toi le centre. C'est Jésus le centre. C'est pas la barque, c'est pas la tempête. Il te demande de tourner ta tête. Donc renonce à tes problèmes. Et on va renoncer à l'endormissement. Réveille-toi, toi qui dors. Pape, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Moi, je dis, Seigneur, réveille-moi. On va renoncer au feu qui éteint. Parfois, vous savez, on vit sur les gloires passées. On a vécu la gloire de Dieu, on a été touché. Et on a perduré semaine après semaine avec ce feu, mois après mois, avec le feu du début. Mais tout doucement, il s'est éteint et puis voilà. L'habitude est là, on vient au culte. Ah, qu'est-ce que c'était puissant. Et on vit sur une gloire passée, mais ce qui est passé est passé. Je veux la nouvelle gloire. Je veux le neuf. Hein, Marine ? Tu veux le neuf, toi ? Réveille-toi, toi qui dors. On accepte ce qu'on sait être juste pour Dieu. On le sait, mais on a du mal à le mettre en application dans notre vie. On engage notre volonté en disant, Seigneur, je vais te suivre, quoi qu'il m'en coûte. Même quand je serai face à un mur, là, je vais te suivre. On accepte que ça nous coûte. Vous savez, la vie est difficile. Est-ce que vous savez que le verbe bio, qui veut dire vie, vient de bia, qui veut dire violence. Ça veut dire que la vie est un combat. Respirer me demande je ne sais pas combien de cellules qui travaillent, qui consomment de l'énergie, qui fabriquent toutes sortes de choses. Bouger ma jambe me coûte. Quand je la bouge trop, je suis fatigué, je dois me reposer. La vie est violente. Elle nous coûte. Je préfère que ça me coûte pour Jésus que galérer dans ma barque. C'est juste. C'est en prenant le joug de Christ sur nos épaules qu'on va trouver le réel repos. Le repos où, Seigneur, je m'occupe de tes affaires. Ouais, ça va engager mon temps, ma volonté, ma détermination, mon corps entier, mon âme entière. Mais mon esprit sera en contact avec ton esprit. Je vais commencer à ouvrir les yeux spirituels pour voir dans le surnaturel. Je ne vais plus être focalisé constamment sur le naturel, le naturel, le naturel qui m'envahit jour après jour. C'est être capable de faire cette césure, de dire « Ok, il y a le naturel, mais moi, c'est le spirituel qui m'intéresse. Je m'occupe du naturel parce que je dois m'en occuper, mais le spirituel prime. Et toi, moi, je vais m'occuper de tes affaires, tu vas t'occuper de mes affaires. » Est-ce que vous me suivez ? On est ensemble ? Vous avez compris ? Eh bien, on va s'arrêter. C'est pas beau, ça ? Alors, on va prier, je vais demander à Paul et Julien si vous pouvez venir.